Alors, je vais présenter Fabienne Bensa. Alors, chaque fois, je suis obligée de réviser le nom du bureau dont elle est le chef. Alors, là, je me suis entraînée, je l'ai dit tout à l'heure à peu près correctement, c'est le bureau de la politique d'éducation prioritaire, c'est marqué en plus, si je dois lire, et des dispositifs d'accompagnement, donc de la DGESCO. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il y a peu de personnes en France qui connaissent l'éducation prioritaire, comme Fabienne. Elle traite ces dossiers difficiles depuis quelques années avec une remarquable intelligence et une incroyable énergie. Je pense que ceux qui l'ont vue, qui ont travaillé avec elle ou qui l'ont croisée dans les journées nationales qui sont souvent de sa responsabilité, savent de quoi je parle. Ils savent aussi que je ne suis pas en train de faire preuve de courtoisie ou de politesse, voire de flatterie, mais que c'est vraiment du parler vrai. Donc, je te laisse la parole tout de suite pour nous présenter l'internat d'excellence, bilan d'étape.
Bon, merci Catherine. Bon, maintenant, je suis toute rouge devant les caméras. Donc, j'ai pas besoin de me présenter puisque Catherine l'a très, très gentiment fait. Sachez combien je suis heureuse d'être parmi vous ce matin parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ces rencontres entre la recherche, le terrain, l'institution, le fait qu'on puisse installer les choses dans un dialogue qui soit constructif et libre. Je trouve que c'est quelque chose que nous avons tous intérêt à faire le mieux possible. Et je remercie l'IFE, le Centre Alain Savary, de nous donner l'occasion de faire cela parce que ce n'est pas si fréquent. Et je crois que c'est nécessaire pour qu'on puisse réfléchir ensemble à tout ce qu'on met en place. D'autre part, sachez bien que l'évaluation fait partie du cahier des charges des internats d'excellence. Depuis le début, on se dit, on met les internats d'excellence en place et d'un autre côté, on pense immédiatement l'évaluation, même si les choses se mettent en place peut-être pas tout à fait aussi vite qu'on voudrait, mais en même temps, j'ai trouvé que grâce à l'aide notamment du Centre Alain Savary, là, pour les internats d'excellence, on a été particulièrement réactifs tous et je pense que ce sera tout à fait positif. Donc, rapidement, je ferai un petit bilan d'étape puisque c'est le titre de l'intervention qu'on m'a demandé, j'essaierai de resituer ce bilan court dans un tout petit historique de la mesure, parce que c'est une mesure qui est récente, mais qui a déjà une histoire et qui a déjà connu des évolutions fortes. Ensuite, donc, je donnerai quelques chiffres qui sont les chiffres que nous avons à la DGESCO, parce que nous faisons, c'est bien célèbre, des enquêtes qui nous permettent d'avoir des données. J'en profite pour présenter Nathalie Roch, qui travaille à mes côtés dans le bureau et qui vraiment est une aide précieuse, qui m'a aidée notamment à faire ce PowerPoint et que vous avez régulièrement les uns et les autres au téléphone et qui se charge de toutes les enquêtes dont je parlais à l'instant. Et puis, j'essaierai d'insister sur un point particulier qui est celui qui me semble particulièrement important, c'est le point de la dynamique pédagogique et éducative. On a parlé de format scolaire tout à l'heure. Il me semble que c'est quelque chose qui est déjà pensé, mais qui reste à renforcer et à mettre en œuvre pour que nos internats d'excellence puissent répondre aux objectifs qui leur ont été fixés. Et puis, je donnerai quelques éléments de perspective et j'essaierai d'être brève et préfère répondre à des questions si je n'ai pas été complète sur l'ensemble des éléments que j'aurais précisés. Donc, un petit schéma pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'internat d'excellence, que vous voyez entre places labellisées, les établissements internats d'excellence, appelés autrement internats d'excellence ex nihilo, et puis des dates 2008, 2009, 20 000 places, une mesure, deux modalités, un logo. Dire que les internats d'excellence sont nés, vous le savez, je pense tous, de la dynamique Espoir banlieue, que c'est donc qui réfléchissait à deux types de mesures dans l'élaboration de la dynamique Espoir banlieue. On voulait à la fois mettre de l'excellence dans les quartiers et offrir de l'excellence hors des quartiers pour des enfants concernés. Et donc les internats d'excellence faisaient partie de la deuxième catégorie. Il s'agissait de sortir les enfants de l'endroit où ils habitent pour essayer de leur offrir des conditions différentes et essayer de casser les frontières, soit physiques, soit mentales, qu'ils pouvaient rencontrer dans ces quartiers. De ce fait, travailler sur les internats d'excellence a été toujours travailler avec l'accès, pour ce qui concerne la DGESCO et le bureau, et notamment sur la première forme qui a été prise par le dispositif, c'est-à-dire les places labellisées. Et donc, la première forme de la mesure, ça a été de dire, on va labelliser dans certains internats des places en petit nombre, de manière à pouvoir accueillir des élèves qui auraient été repérés comme n'ayant pas les conditions matérielles matériel familial, enfin de bonnes conditions pour étudier. Et donc on les sort de leur quartier pour leur offrir une prise en charge plus grande qui leur permettra d'aller au bout de leur possibilités scolaires et de les aider à construire toutes ces possibilités. Après la création de Sourdins, la mesure a changé. Et on s'est mis à penser à créer des établissements internats d'excellence. Et donc, le premier, bien connu, c'est Sourdins. Et ensuite est venue la possibilité d'utiliser le grand emprunt pour construire ces internats d'excellence et donc de construire des internats ex nihilo. Et ce travail nous a conduit à continuer à travailler avec l'ACSEB d'une part, mais aussi à travailler avec l'ANRU, qui est devenu l'opérateur pour le grand emprunt, pour pouvoir gérer les budgets concernant la mise en place de ces internats ex nihilo. Voilà. Donc, vous voyez une mesure qui a évolué entre un premier schéma place labellisée et un deuxième, les établissements ex nihilo, des opérateurs qui se sont multipliés, l'accès, l'ANRU, et puis une évolution de la représentation qu'on peut se faire des places labellisées. Au départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était quelques places dans des internats. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et je pourrais revenir peut-être tout à l'heure, que s'il n'y a pas un seuil critique d'élèves dans ces internats, il est très difficile de créer un véritable projet qui soit entraînant, qui pose vraiment une dynamique dans les établissements. Et les établissements aujourd'hui, de plus en plus, qui labellisent des places, se pose la question du nombre exact de places labellisées à labelliser, donc, et c'est quelque chose qui est en évolution, en réflexion, et dans les dernières discussions avec les recteurs, on a vu ces questions émerger. Alors, pour parler du public qui est accueilli, effectivement, vu la genèse de cette mesure, le premier public qui a été pensé, c'est celui du public politique de la ville, mais dans le même temps, il y avait un objectif de mixité sociale. L'idée était aussi de faire en sorte que les établissements donc accueillent des élèves qui étaient défavorisés pour les aider à mieux réussir, et en même temps d'aller vers une mixité sociale. Et c'était un petit peu difficile de dire on va prendre des élèves et on va construire par exemple un établissement complet type Sourdins pour ces élèves en difficulté, et puis quid de la mixité sociale. Et donc s'est posé aussi tout de suite la question de savoir comment on allait mixer un petit peu les publics pour effectivement essayer d'aller dans ce sens-là. Et puis de toute façon, cette mesure qui était bien sûr née de la dynamique Espoir banlieue est une mesure éducation nationale, et elle doit donc pouvoir s'offrir à tout élève qui en a besoin. Et un public qui revient constamment quand on discute avec les uns et les autres responsables, c'est le public des zones rurales défavorisées, et vraiment c'est donc la volonté aujourd'hui, c'est véritablement que tout élève qui est repéré par les chefs d'établissement qui pour lesquels la famille demande, ou pour enfin quel que soit le processus engagé, tout élève puisse y accéder. Se pose la question après, et qui est liée à la manière dont les choses ont démarré, des financements, puisque vous le savez tous, l'accès donne 2000 euros par élève qui relève dont la famille habite dans les quartiers politiques de la ville, dans les US, généralement. Bon. Donc ça limite largement le nombre, puisqu'au départ, dans la première circulaire qui avait été écrite, on avait écrit éducation des élèves scolarisés dans les établissements éducation prioritaire et issue de la politique de la, des quartiers politiques de la ville. Donc l'accès a limité un petit peu son champ. En même temps, elle n'a pas des fonds complètement infinis. Donc il est normal qu'il y ait des règles qui se posent. Mais cet argent-là, dont les établissements peuvent bénéficier pour mettre en place des projets, il n'y a pas l'équivalent, par exemple, pour les élèves, je parlais des élèves ruraux, il n'y a pas l'équivalent pour les élèves qui relèvent du rural. Donc ça pose des difficultés un petit peu de conception, de budget pour les établissements pour mettre en place tout cela. Mais bon, on y réfléchit, bien entendu. Et en tout cas, l'affirmation est que tout élève qui en a besoin, même si l'accès ne met pas 2000 euros, doit pouvoir être accueilli dans un internat d'excellence. Alors voilà les éléments de bilan que je voulais vous montrer. Donc il s'agit des places labellisées, c'est-à-dire ce que les académies déclarent comme étant occupables par des élèves qui relèveraient de la mesure internat d'excellence. Donc le schéma, vous le voyez tout seul, montre une réussite sur le plan quantitatif. Hein, il y a véritablement une progression, un nombre de places qui double chaque année. Alors un taux d'occupation de ces places qui reste à faire évoluer, puisqu'il y a encore des académies qui n'arrivent pas à recruter suffisamment d'élèves pour remplir toutes ces places internat d'excellence, et qui, dans ce que je vous disais tout à l'heure, essayent de revoir leur politique de manière à voir si ce qu'ils avaient pensé au départ comme schéma, et qui était une réponse institutionnelle à la demande institutionnelle, hein, ne nous leurrons pas, on l'a mis en place très vite, ça a été une demande qui a été tout de suite, les académies ont immédiatement répondu à la demande, et aujourd'hui on occupe les choses et on ajuste ce qui se fait. La politique de labellisation s'affine dans les établissements et aujourd'hui donc on voit les choses évoluer de manière notable. Autre petit schéma, on a à peu près... alors en 2010-2011, nous n'avions que 29 académies sur 30 qui travaillaient. Aujourd'hui, il y a les 30, hein, c'est pour cette année scolaire-ci. Et en 2010-2011, on vous a donné les chiffres stabilisés. Hein, c'est 6300 places qui ont été proposées, quel que soit le schéma, que ce soit les places labellisées ou les places dans les internats d'excellence. Donc il y a quelque chose qui rentre dans un processus qui nous permettra sûrement d'aller vers nos 20 000 places, hein, puisque les 20 000 places sont la cible, je sais. Puisqu'on en est à 6 300. C'est la cible posée par le président de la République vers laquelle on va essayer d'aller. Hein. Alors, on vous a donné aussi toutes les filières, les collèges, le LGT, le LP. Et là, je voulais insister sur le fait que on voit que les collèges représentent simplement 22%. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument qu'on change, puisque la cible des internats d'excellence aurait dû ou devrait être le collège, puisqu'on pense que en les prenant bientôt, on peut développer dans un continuum un parcours qui devrait pouvoir permettre une prise en charge forte de ces élèves. Et puis on vous a mis la proportion de filles qui était l'année d'avant juste 50-50, et puis qui a changé un tout petit peu, mais parce qu'il y a plus de LP qui sont rentrés dans le dispositif, et vous savez que dans les LP il y a davantage de garçons. Mais c'est quelque chose, et même si ces proportions sont ce qu'elles sont, sachez que c'est une question très importante pour nous, la question filles-garçons dans ces internats d'excellence. Ça se pose de manière très forte pour les places de CPGE. Ça se pose moins nettement, d'une manière moins nette dans les autres niveaux, mais c'est quelque chose qui est une question importante, une question vive, comme disait tout à l'heure Anne-Marie. Magie, voilà. Le premier qui a ouvert, c'était Sourdin. Et ensuite, on a eu 12 ouvertures en 2010, que vous connaissez. Je relis pas la liste. Qu'il y en a une. Il y a une ouverture en Guyane. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Vous attendiez quelqu'un de la Guyane qui. C'est loin. Hein voilà. Donc ça, j'imagine que vous avez déjà vu ces cartes et que vous avez déjà vu ces renseignements. Et une autre façon de présenter les choses. Donc les places labellisées, les places des internats ex nihilo, le total des places. Alors, si vous regardez, il y a des cas plus, qui sont intéressants à regarder. Par exemple, Montpellier, qui a beaucoup de places labellisées et qui a aussi des places dans un internat ex nihilo, donc qui a les deux dans les deux cartes, ils sont dans des fortes densités. Et puis par exemple Créteil qui a, on le voit, mis une option plus forte sur les places ex nihilo que sur les places labellisées, mais ça donne une offre malgré tout extrêmement dense, assez dense sur pour l'ensemble de la mesure. Et vous remarquerez aussi, mais ça c'était une demande qui nous avait été faite depuis le départ, de mettre davantage de places dans l'arc nord-est et sud-est, ce qui est à peu près ce qui se dessine ici. Alors, ce que je voulais vous dire effectivement, c'est que sur le bilan, on peut aussi regarder. Donc, je vous disais qu'on faisait des enquêtes, qu'on essayait d'établir un suivi tout à fait administratif et qui relève pas du tout de la même chose qu'on peut faire quand on est inspecteur général et qu'on va observer sur le terrain et quand on est chercheur et qu'on va travailler avec des équipes. On a les données qui nous sont remontées, hein, qu'on essaye de traiter avec le plus grand sérieux. On essaye de se doter d'instruments qui vont nous permettre d'intégrer la mesure internat d'excellence dans nos systèmes d'information, puisque c'est en train d'être intégré dans SCONET, et on est en train dans SCONET, hein, qui est un système d'information qui s'intéresse aux élèves pour les élèves. Et donc, ça, c'est en train d'être intégré dans SCONET. On va pouvoir savoir que dans tel établissement, il y a des internes d'excellence et quel est leur statut, s'ils sont internes sur place, internes externés ou si, enfin bon. Tout ce genre de choses-là. On est donc dans un travail qui est, vous savez, ce type de travail souterrain et ingrat qui un jour permet d'avoir des données un peu plus fiables que les données déclaratives des enquêtes. Mais en même temps, on est obligé de faire les deux. Et puis, au moment de la mise en place du grand emprunt, comme il y avait beaucoup de questions d'argent sur le programme 324, ont été créés des indicateurs de performance pour la LOLF, alors qui valaient pour un an, mais qu'on pourra utiliser de toute façon, avec la précaution de vous dire que ces indicateurs sont tous déclinés pour les filles et les garçons, et qu'il y a des cibles définies pour le niveau national et pour le niveau académique. Et donc, l'idée effectivement, est de savoir s'il y a un effet internat d'excellence. Donc, on essaye de mesurer avec les indicateurs qui sont un peu robustes, comme disent les gens de l'ADEP, et dont on peut disposer, s'il y a des choses à constater. Donc là, je vous ai pas mis les pourcentages et les taux exactement tels qu'ils sont donnés dans la LOLF, parce que c'est assez rebutant, mais je vous ai donné les thèmes. Donc c'est la question, on regarde le doublement, on regarde la maîtrise en fin de troisième du socle commun, du moins quand on saura exactement le faire, ça. C'est la cible. La réussite au DNB, ça, on sait à peu près le mesurer. L'orientation vers la seconde GT, l'orientation vers la seconde professionnelle, l'absentéisme, ça c'était pour le collège. Et puis vous voyez pour le lycée des choses qui sont un petit peu équivalentes et qui se répètent. Et vous voyez qu'on a bien pensé au post-bac et qu'on essaye de penser, même si la chose n'est pas encore tout à fait mise en place sur le terrain, mais on essaye de penser dès le début ce continuum du collège au post-bac, hein, puisque l'enseignement supérieur est aussi un ministère partenaire de cette mesure. Voilà, et donc normalement ce programme 324 qui a été créé parce qu'il y a eu un temps de gestion par l'éducation nationale, et maintenant c'est passé à l'ANRU de l'éducation du grand emprunt. C'est un programme qui n'a plus lieu d'être, mais qui nous a permis de poser quand même les premiers jalons avec l'ADEP pour essayer de voir ce sur quoi on pourrait commencer à s'appuyer pour poursuivre au long cours la mesure. Le travail reste à affiner très largement avec l'ADEP. Alors, je voulais insister donc sur quelque chose. Donc, on a écrit des circulaires. On a mis que la circulaire de la dernière. On crée aussi, en dehors de textes officiels, pour l'anecdote, j'ai mis vidéo à côté de circulaire. Ça m'amusait de mettre ça juste à côté, puisqu'on crée aussi des espèces d'outils de communication pour essayer de présenter les internats d'excellence. Et ils sont en ligne et ils reprennent d'une manière un peu différente ce que disent les textes officiels. Et puis, vous avez différents textes sur lesquels on a pu s'appuyer pour soit créer un internat d'excellence, soit réfléchir à la manière dont on pourrait labelliser vraiment les internats qui rentrent dans le dispositif. Et donc, on a, avec la circulaire de 2010, vous avez un cahier des charges qui est donné en annexe. Et on a créé depuis une charte pour les places labellisées qui essaye de dire si j'accepte d'être un établissement qui labellise des places, voilà à quoi je m'engage. Et donc j'ai oublié de le prendre, tu dois l'avoir sur mon bureau dans mon dossier, voilà. Merci Nathalie, je vous disais qu'elle était précieuse. Donc c'est un document qui est en ligne, hein, que vous pourrez voir et qui se décline selon les ministères, agriculture et défense aussi. Je vous en reparlerai. Et le dernier document à naître sur les internats d'excellence, c'est quelque chose dont vous avez un projet, et je vous demande vraiment de ne le prendre que comme un projet aujourd'hui, c'est le Vademécum sur le projet pédagogique et éducatif en internat d'excellence qu'on a écrit avec des représentants des académies, des représentants de l'IG, oui, il y avait 3 IG, il y avait inspecteurs généraux, des représentants de différents bureaux de la DGESCO, et puis quelques personnes aussi qui ont travaillé dans les internats d'excellence. C'est un document dont j'ai déjà parlé peut-être à une autre, le 30 mars, lors de la dernière réunion. Et là, il est en cours de maquettage. C'est pas tout à fait la dernière version. Quand on vous l'a envoyé, il y a eu encore des changements depuis. Donc, c'est vraiment un projet que je vous demande de prendre tel quel et d'en prendre comme un document de travail. Je vous remercie de ne pas le diffuser parce que c'est pas la dernière version. Et qui essaye de dire en quelques lignes quels sont les grands axes pour travailler dans l'internat d'excellence. Alors, vous allez me dire, on n'a pas attendu le Vademécum de la DGESCO pour travailler. Dont acte, et ça, heureusement, et tant mieux. Mais en revanche, il reste beaucoup d'endroits où il ne s'est pas mis en place grand-chose. Et on se dit que peut-être donner quelques grandes lignes d'action, ça peut enclencher des processus dynamiques, hein, comme je disais tout à l'heure, qui paraissent intéressants. Donc là, vous avez en gros la structure du Vademécum, avec un point sur 5-10 minutes. Ouais. Ce qui nous a intéressé, c'est un texte qui a un court texte d'introduction avec l'introduction, les principes de l'internat d'excellence et les objectifs du projet, les principes du projet pédagogique, du projet pédagogique éducatif et les objectifs de ce projet pédagogique et éducatif. Et puis on a construit des fiches sur 7 thèmes. 6 seulement, oui, il y en a un qui est 6 thèmes, et qui essayaient de, avec des spécialistes, hein, il y avait quelqu'un du CLEMI pour les médias, il y avait des gens de différentes qui nous ont aidés, en essayant de dire, si vous voulez travailler plus sur un de ces sujets, quelle piste vous pouvez creuser, quelles ressources vous pouvez trouver, etc. Donc c'est véritablement un document qui n'a pas de valeur de normes, mais qui essaye simplement de donner quelques grands principes et quelques grands objectifs. Et ce qui nous intéressait quand on a écrit ce texte, c'est de réfléchir à l'internat comme étant, et notamment l'internat d'excellence, comme étant un espace-temps particulier. Et en se disant comment, dans notre système français aujourd'hui, on peut faire en sorte que cet espace-temps particulier puisse être mis en à profit de manière à créer quelque chose qui véritablement personnalise et permette une action très individualisée auprès de ses élèves et puisse se servir de toutes les ressources qu'offre le système éducatif, avec ou sans dérogation hein, d'ailleurs, hein, simplement utiliser toutes les possibilités qu'offre le système, hein, puisque il y en a des marges de manœuvre dans le système qu'on peut utiliser largement, et qui et voir comment qu'est-ce qu'on peut ce sur quoi on peut attirer l'attention. Et cela a été fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'aide d'un groupe de travail qui connaissait bien ce qui se passait dans certains internats d'excellence ou qui connaissaient bien certains dispositifs, hein, on a essayé de croiser les deux choses et ça a permis de dire des choses qui ont été des premiers constats, par exemple ne pas assommer les élèves d'activités du matin au soir, mais en essayant de dire qu'il faut des lignes de conduite, il faut essayer de trouver aussi des respirations à un élève, même s'il est dans un espace-temps particulier de l'internat, il a le droit aussi à respirer, peut-être à rien faire et à s'ennuyer un petit peu. Enfin voilà, on a essayé sans vouloir critiquer, parce que les gens qui ont mis en place les choses, ils l'ont mis toujours en essayant d'être efficace et de bien faire, mais on s'est dit au premier retour de ce qu'on a pu entendre, essayons donc à la fois de faire ce travail. Alors je reprends les principes, hein, vous avez le document dans vos dossiers, hein, la cohérence entre le pédagogique et l'éducatif. Si dans un internat d'excellence on ne pense pas cette liaison entre le temps dit de la classe et le temps vie scolaire, alors on ne le pensera nulle part. Hein, bon, je vous rappelle que je travaille en même temps en ce moment sur les éclairs et que c'est aussi quelque chose qui est en réflexion. La forme scolaire peut être aussi, parce qu'on est dans un espace-temps particulier, peut être revue et on peut encourager les expérimentations et les innovations. On peut utiliser aussi le fait qu'on est dans un espace particulier qui est a priori coupé du monde, mais qui doit être en même temps en relation avec le monde, pour essayer de voir comment on peut utiliser la culture numérique pour jouer de ces deux tableaux. Et puis, puisqu'on est aussi dans un espace particulier, on peut aussi penser cette organisation en fonction de l'axe du développement durable. Donc toutes ces questions-là, se sont posées. Et l'idée, c'était aussi de dire qu'un projet d'établissement, un projet pédagogique et éducatif dans un internat d'excellence, quel que soit son format, que ce soit des places labellisées ou un établissement internat d'excellence, que l'internat d'excellence en tant qu'établissement ex nihilo fasse l'ensemble scolarisation, hébergement, et etc., ou que ce soit simplement un endroit où on héberge et que les élèves vont dans d'autres établissements à côté, enfin quelle que soit la forme de l'internat d'excellence, extrêmement multiple, et c'est difficile de parler de l'internat d'excellence tellement ses formes sont variées. En tout cas, ce qui compte, c'est que il faut absolument qu'il y ait une équipe qui se soit fédérée autour de ce projet pour la mettre en œuvre. Bon, ça fait partie aussi des professionnalités qu'il faut qu'on développe. Ça a l'air d'être une tarte à la crème, ce que je suis en train de dire, parce que ça fait partie des conditions de l'innovation, on le sait, des conditions d'un bon pilotage d'établissement, on le sait, et on sait aussi qu'on est encore très très loin de cette mise en œuvre dans bien des établissements. Et donc, l'idée de ces établissements internats d'excellence, qui sont pensés pour être une espèce d'avant-garde de l'internat, hein, puisqu'il s'agit de pousser, grâce à l'internat d'excellence, l'ensemble des internats à se doter d'une politique plus pédagogique, hein, plus éducative, et non pas simplement être un lieu où on dort. Ces internats d'excellence qui sont pensés, mon directeur le dit tout le temps, comme étant l'avant-garde de l'éducation prioritaire, puisqu'ils doivent être vraiment l'endroit où on donne le plus à ceux qui en ont le moins et qui doivent être aussi le relais mis en réseau avec les établissements éclairs, et qui doivent être aussi les établissements dans lesquels on peut aller bien loin dans tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Tout cela nécessite absolument qu'on soit autour d'une équipe très fédérée et qui soit d'accord sur le projet à mettre en œuvre. Et donc, l'idée étant donc de faire de l'internat un lieu d'apprentissage et d'innovation, je donne les titres, de donner à l'internat sa dimension de lieu de vie en impliquant les familles dans cette réflexion-là. Et d'ouvrir l'internat sur le monde avec cette espèce de schéma qu'on peut regarder. Donc un internat qui est ouvert vers l'extérieur, qui sert de ressources pour d'autres et qui s'inscrit dans un réseau. Et donc voilà les grandes lignes de ce qu'on a pu écrire. Qu'on vous a donné ici comme étant donc un projet qui n'est pas encore complètement finalisé, mais qui devrait l'être prochainement. Et donc les perspectives, et je m'arrêterai, donc, c'est de dire que donc, la perspective donc, qui nous est donnée, c'est 20 000 places. Le chemin reste encore... Il y a de la route encore à faire. Ça s'organise aussi dans des schémas directeurs régionaux qui sont en ce moment négociés dans les régions entre les recteurs et les régions pour essayer de réfléchir, attention, non pas simplement aux internats d'excellence, mais à la manière dont doit se penser dans une académie une politique d'internat. C'est-à-dire qu'on essaye de se dire que grâce à la politique d'internat d'excellence, on se remet en discussion avec les collectivités territoriales, puisqu'on parle de schémas directeurs régionaux, mais les conseils généraux sont aussi associés, de manière à réfléchir à comment on revoit la carte de l'internat. Pourquoi ? C'est parce que un des constats qu'on peut faire, c'est qu'il y a beaucoup d'internats en France, et qu'il y a beaucoup d'internats qui sont très vide. Et donc, il y a l'offre et la demande, c'est pas tout à fait adéquate. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qu'on a essayé de solliciter de manière à ce qu'il y ait une nouvelle réflexion. C'est vrai que pendant un temps, on a demandé au CG de construire des collèges partout et qu'effectivement, on n'a pas construit de collège pour les internes du niveau collège, puisque on a travaillé autrement. Donc c'est en ce moment en train de se repenser. Alors sûrement, on ne va pas arriver à quelque chose de parfait, loin de là, mais en tout cas, c'est ce qui se dessine. Aujourd'hui, on est à une dizaines de projets de nouveaux internats d'excellence dits ex nihilo. On voit partout, dans toutes les académies, ce que je disais tout à l'heure, non seulement une augmentation de l'offre de places labellisées, mais aussi une réflexion sur la manière dont il est plus adéquat de labelliser les places. Et on a des partenaires qui sont intéressés aussi par l'internat d'excellence, notamment l'agriculture. L'agriculture, les lycées agricoles ont une très grande tradition d'internat et une très grande compétence dans l'accompagnement par l'internat. Et donc sont rentrés en partenariat avec nous. Et la charte que je vous montrais tout à l'heure décline, parce que c'est pas les mêmes signatures, parce que c'est pas les mêmes questions institutionnelles, décline la chose pour les internats de l'agriculture. On a, et dans quelques années, il y aura même un internat ex nihilo qui verra le jour et qui relèvera de l'agriculture. Vous voyez qu'on a essayé aussi de réfléchir à cette question aussi, même si c'est pas tout à fait superposable de la ruralité. On travaille aussi avec la défense et on travaille avec l'enseignement privé pour essayer de faire en sorte de couvrir le plus possible le territoire et d'offrir des places à tous les élèves qui en auraient besoin, puisque je rappelle, c'est un des objectifs que nous avons. Une autre perspective, alors moins politique peut-être, mais peut-être importante, c'est de mettre les internats d'excellence en réseau, peut-être à deux niveaux. Une chose qui est déjà en cours, c'est la mise en réseau des 13 internats d'excellence dits ex nihilo, qui pour essayer de faire en sorte qu'ils s'échangent, qu'ils puissent un petit peu connaître ce qui se fait pour et puis essayer de qu'il y ait une dynamique qui permette à la fois de booster les choses et d'aider ceux qui de temps en temps en ont besoin. Et puis une autre idée qu'on voudrait, alors que c'est vraiment, là on en est tout début, on aimerait bien aussi que dans chaque académie il y ait une espèce de réseau des internats d'excellence qui mettent en réseau les lycées ou les collèges avec place labellisée, avec, quand il y en a, il y en a pas partout, vous aviez vu la carte tout à l'heure, les établissements internats d'excellence, de manière à pouvoir rentrer là encore dans une dynamique qui mette au cœur vraiment le projet pédagogique et éducatif et moins l'étiquette et le logo, peut-être, que vraiment une dynamique d'action pour les élèves. Et puis donc l'idée étant à la fois de mettre en place, bien entendu, la politique de l'internat d'excellence, mais surtout d'essayer de profiter de cette dynamique-là pour repenser un petit peu l'offre de l'internat et faire en sorte que, bon, ceux qui avaient déjà mis en place des projets très très satisfaisants pour les élèves se voient confortés dans ce qu'ils avaient fait, et faire en sorte que partout, le plus possible en France, quand on pense internat, on pense projet pédagogique et éducatif, accompagnement, et quelque chose qui serve véritablement les élèves. Voilà, en quelques grands traits, un petit peu la manière dont, du point de vue DGESCO, je pouvais présenter la mesure.